Qui est cet Edward French ? Demanda Doucander en remettant la feuille dans le bulletin, s'émerveillant à part lui de l'amour des Américains pour le jargon. Quel style pompeux pour dire aux parents que leur fils est recalé. De nouveau, les mains jointes, il avait de plus en plus clairement le pressenti d'un désastre, mais refusait de se laisser aller. Un an plus tôt, il l'aurait fait. Un an plus tôt, il était mûr pour un désastre. Maintenant qu'il ne l'était plus, c'était comme si ce maudit gamin faisait tout pour l'y précipiter. « Est-ce le proviseur ?»«
Ed Molasson ? Bon Dieu, non ! C'est le conseiller pédagogique !»«
Conseiller pédagogique ? Qu'est-ce que c'est ?»«
Vous voyez bien ce que c'est !»
cria Todd, presque hystérique.
« Vous avez lu cette foutue lettre ?»
Il tournait en rond à grands pas, lançant à Doucander des coups d'œil perçants.
« En tout cas, pas question que cette merde me tombe dessus. Pas question. Pas de trimestre d'été pour ma pomme. Papa et maman vont à Hawaï cet été et je vais avec eux. »
Il montra le bulletin du doigt.
« Savez-vous ce que mon père va faire s'il voit ça ?»
Doucander secoua la tête.
« Il me fera tout raconter. Tout. Il saura que c'est vous. » Cela ne peut pas être autre chose, puisque rien d'autre n'a changé. Il va fouiller, fouiner, et il me fera tout raconter. Et alors je serai recalé.
Il regarda Doucander d'un air de reproche.
Ils vont me surveiller. Bon Dieu, ils pourraient m'envoyer chez un docteur, je sais pas. Comment je le saurais? Mais je veux pas être recalé. Et je n'irai pas à ce putain de cours de rattrapage.
Ou en maison de correction,
dit Doucander. D'une voix très calme. Todd arrêta de tourner en rond. Son visage se figea. Ses joues et son front, déjà pâles, devinrent encore plus blancs. Il regarda Doucander et s'y reprit à deux fois pour parler.
« Quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ?»«
Mon cher enfant, » dit le vieil homme, affectant une patience extrême. « Cela fait 5 minutes. » que je t'écoute gémir et piailler, et tous tes gémissements et piaillements se réduisent à ceci. Tu as des ennuis. Tu risques d'être découvert. Tu peux te retrouver en mauvaise posture. »
Voyant que Todd lui accordait, enfin, toute son attention, Doucander but une gorgée, l'air pensif.
« Mon garçon, ton attitude risque de te mettre en grave danger, ainsi que moi, pour qui les risques sont beaucoup plus grands. Tu t'inquiètes pour tes notes ? Bah, voilà pour tes notes. »
D'une pichenette de son doigt jauni, il envoya le bulletin voler par terre.
« Je m'inquiète pour ma vie. »
Todd ne répondit pas. Il continua seulement de fixer Doucander d'un regard blanc, un peu fou.
« Les Israéliens n'auront aucun scrupule du fait que j'ai 76 ans. La peine de mort est toujours très bien vue là-bas, tu sais. Surtout quand celui qui est dans le box des accusés est un criminel de guerre nazi impliqué dans les camps. »«
Vous êtes un citoyen américain, »
dit Todd.
« L'Amérique ne les laissera pas vous prendre. J'ai lu des choses là-dessus.
Tu lis, mais tu n'écoutes pas. Je ne suis pas citoyen américain. Mes papiers viennent de la Cosa Nostra. Je serai expulsé et les agents du Mossad m'attendront à l'atterrissage. Je voudrais qu'ils vous pendent, »
marmonna Todd, qui serra les poings, les yeux baissés.
Et d'abord, j'ai été dingue de me compromettre avec vous.
Sans doute,
dit le vieil homme avec un mince sourire.
Mais tu es compromis. Nous devons vivre dans le présent, gamin. Pas dans le passé des « je n'aurais jamais dû ». Tu dois comprendre que ton sort et le mien sont désormais inextricablement mêlés. Si tu craches le morceau à mon sujet, comme vous dites, crois-tu que j'hésiterai à en faire autant pour toi ? Il y a eu 700 000 morts à Patine. Pour le monde entier, je suis un criminel, un monstre, même un boucher, comme le prétendent tes torchons à scandale. Tu es complice de tout cela, mon garçon. Tu connaissais la situation illégale d'un étranger et tu ne l'as pas dénoncé. Et si je suis pris, je parlerai de toi au monde entier. Quand les journalistes brandiront leur micro, ce sera ton nom que je répéterai sans arrêt. Todd Bowden, oui, c'est son nom. Combien de temps? Presque un an. Il voulait tout savoir, tous les trucs juteux. C'est ce qu'il disait, oui, tous les trucs juteux.
Todd retenait son souffle. Son teint était translucide. Doucander lui sourit, but une gorgée de bourbon.
« Je pense qu'ils te mettront en prison. Ils peuvent appeler ça une maison de correction ou d'éducation surveillée, n'importe quel nom fantaisiste, comme ce rapport trimestriel d'activité, »
dit-il en ricanant.
« Mais de toute façon, il y aura des barreaux aux fenêtres. »
Todd sumecta les lèvres.
« Je dirai que vous mentez. Je leur dirai que je viens seulement de tout découvrir. C'est moi qu'ils croiront, pas vous. Vous feriez mieux de vous en souvenir. »
Doucander gardait son mince sourire.
« Je croyais que d'après toi, ton père te ferait tout raconter. »
Todd s'exprimait lentement, comme quelqu'un qui énonce les choses au fur et à mesure qu'il les conçoit.
« Peut-être pas cette fois. »
Il ne s'agit plus d'une vitre cassée en lançant un caillou. Doucander, intérieurement, accusa le coup. Le gamin avait de bonnes chances d'avoir raison. Avec un tel enjeu, il pourrait peut-être convaincre son père. Quel parent, après tout, face à une vérité désagréable, ne préfère pas se laisser convaincre?
Peut-être. Peut-être non. Mais comment vas-tu expliquer tous ces livres que tu lisais à ce pauvre monsieur Denker à moitié aveugle? Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient, mais je peux encore lire les petits caractères avec mes lunettes. Je peux le prouver.
Je dirais que vous m'avez joué la comédie.
Vraiment? Et quelle raison pourras-tu donner de cette comédie?
Pour l'amitié. Parce que vous vous sentiez seul.
Ce qui, se dit Doucander, était assez proche de la vérité pour être vraisemblable. Et autrefois, au début, le gamin aurait pu encore le faire passer. Mais maintenant, il était détruit. Il tombait en morceaux comme un manteau en bout de course. Il suffirait qu'un enfant donne un coup de pistolet à Amorce de l'autre côté de la rue pour qu'il saute en l'air et hurle comme une fille.
« Ton bulletin renforcera également ma version. »
dit le vieil homme.
« Ce n'est pas Robinson Crusoe qui a fait dégringoler tes notes à ce point-là, gamin. »«
Fermez-la, non ? Fermez-la et c'est tout !»«
Non, je ne la fermerai pas là-dessus. »
Il alluma une cigarette, frottant l'allumette sur la porte du four qui était ouverte.
« Pas avant de t'avoir fait reconnaître une simple vérité. Dans cette histoire, nous sommes ensemble. Nous nageons ou nous coulons ensemble. »
Il regarda Todd à travers les couches de fumée, sans sourire. Son visage ridé, antique, était celui d'un reptile.
« Je t'entraînerai au fond, gamin, je te le promets. Si quelque chose arrive à la surface, tout sortira. C'est une promesse que je te fais. »
Todd le regarda, maussade, et ne répondit pas.
« Maintenant, » dit Doucander d'un ton alerte,
l'air de celui qui a été obligé d'en passer par quelques désagréments,
« la question est celle-ci. Qu'allons-nous faire? Tu as des idées ?»«
Voilà pour le bulletin, »
dit Todd en sortant un flacon de corrector de sa poche.
« Mais pour cette foutue lettre, je ne sais pas. »
Doucander regarda le flacon d'un œil approbateur. En son temps, il avait lui-même falsifié quelques rapports. Quand les quotas grimpaient à des hauteurs fantastiques. Et même plus haut. Beaucoup plus haut. Et aussi, tout à fait comme dans la situation actuelle, il y avait eu la question des relevés. Ceux qui énuméraient l'incommensurable butin. Une fois par semaine, il vérifiait les caisses d'objets de valeur, lesquels étaient tout expédiés à Berlin dans des wagons spéciaux qui ressemblaient à des coffres-forts sur roues. Chaque caisse était accompagnée d'une enveloppe en papier fort collée sur le côté avec la liste certifiée de son contenu. Tant de bagues, de colliers, de pendentifs, tant de grammes d'or. Par ailleurs, Dusander avait sa caisse personnelle. Pas des objets de très grande valeur, mais pas de la camelote non plus. Des jades, des tourmalines, des opales, quelques perles imparfaites, des diamants industriels. Quand un objet envoyé à Berlin lui tapait dans l'œil ou lui semblait un bon investissement, il l'enlevait, le remplaçait par un des siens et se servait du correcteur sur le relevé, inscrivant un objet pour un autre. Il était devenu un assez bon faussaire, talent qui lui avait servi plus d'une fois après la guerre. « Bien, » dit-il. « Quant au reste... » Dusander se remit à se balancer en buvant à petites gorgées. Todd traîna une chaise près de la table et commença à travailler sur son bulletin qu'il avait ramassé sans rien dire. Le calme apparent du vieil homme avait fait de l'effet, et il œuvrait en silence comme n'importe quel petit Américain décidé à faire de son mieux, qu'il s'agisse de planter du maïs, de lancer une balle gagnante au championnat junior de baseball ou de falsifier ses notes sur un bulletin. Dusander observa sa nuque un peu hâlée, proprement délimitée par le bas de sa chevelure et le col rond de son t-shirt. Ses yeux errèrent ensuite jusqu'au tiroir du haut, celui où il mettait les couteaux à découper. Un coup, un seul, il savait où le porter, et la moelle épinière serait tranchée nette. Ses lèvres seraient à jamais scellées. Le vieil homme eut un sourire de regret. Si le gosse disparaissait, on poserait des questions. Trop de questions. On lui en poserait. Même si la lettre gardée par un ami n'existait pas, il ne pouvait pas se permettre d'être examiné de trop près. Dommage. « Ce French, » dit-il en tapotant la lettre, « connaît-il tes parents personnellement ?»«
Lui ?»
Todd souligna ce mot de son mépris.
« Il ne pourrait même pas mettre les pieds là où ils vont. »« Les a-t-il déjà rencontrés professionnellement ? Ont-ils déjà discuté ensemble ?»«
Non, j'ai toujours été parmi les premiers, jusqu'à maintenant. » »«
Alors, qu'est-ce qu'il sait sur eux ?»
Dusander, rêveur, contempla son verre presque vide.
« Oh, il sait tout sur toi. Il a sûrement tous les documents imaginables à ton sujet, jusqu'à tes bagarres dans la cour de la maternelle. Mais qu'est-ce qu'il sait sur eux ?»
Todd reposa sa plume et rangea son petit flacon de correcteur.
« Eh ben, il connaît leur nom, bien sûr, et leur âge. Il sait que nous sommes tous méthodistes. On n'est pas obligé de remplir cette ligne-là, mais mes parents le font toujours. On n'y va pas souvent, mais il saura qu'on en est. Il doit savoir comment papa gagne sa vie. Ça aussi, c'est sur les formulaires. Tous ces trucs qu'on doit remplir chaque année. Et je suis à peu près sûr que c'est tout.
Si tes parents avaient des problèmes, est-ce qu'ils le sauraient?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Dusander se versa le reste du bourbon.
Des disputes, des querelles, ton père qui dort sur le divan, ta mère qui boit trop.
Ses yeux brillèrent.
Un divorce à l'horizon.
Todd fut indigné.
Il n'y a rien de ce genre à la maison. Jamais de la vie.
Je n'ai pas dit que c'était vrai. Mais réfléchis, gamin. Suppose que chez toi, tout aille à volo, comme vous dites.
Todd le regarda en fronçant les sourcils.
Tu t'inquiéterais pour eux. Tu t'inquiéterais beaucoup. Tu perdrais l'appétit. Tu dormirais mal. Plus triste que tout, ton travail scolaire en souffrirait. Vrai? Très triste pour les enfants quand il y a des problèmes à la maison.
Une lueur de compréhension perça dans les yeux du garçon. La compréhension est quelque chose comme une gratitude muette. Dusander fut satisfait.
Oui, quel malheur quand une famille titube au bord du précipice,
dit le vieil homme d'un ton solennel, se reversant du bourbon. Il était déjà ivre.
Les feuilletons TV de l'après-midi montrent ça très clairement. Il y a de l'acrimonie, des médisances et des mensonges, mais surtout, il y a de la souffrance. De la souffrance, mon garçon. Tu n'as pas idée de l'enfer que tes parents traversent. Ils sont à ce point submergés par leurs problèmes qu'ils n'ont plus guère de temps pour ceux de leurs propres fils. Ces problèmes paraissent mineurs comparés aux leurs, hein? Un jour, quand les plaies commenceront à cicatriser, ils lui accorderont sans doute toute leur attention une fois de plus. Mais pour l'instant, la seule concession qu'ils puissent faire est d'envoyer ce bon grand-père voir Monsieur French.
Les yeux de Todd s'étaient peu à peu ranimés jusqu'à prendre un éclat passionné.
« Ça pourrait marcher ?»
marmonna-t-il.
« Pourrait, ouais, pourrait marcher. Pourrait... »
Soudain, il se tut. Ses yeux s'assombrirent à nouveau.
« Non, ça n'ira pas. Vous ne me ressemblez pas, pas même un petit peu. Ed Molasson n'y croira jamais. »«
Himmel, Gott im Himmel !»
s'écria Dusander en se levant d'un bond. Il traversa la cuisine, en titubant un peu, ouvrit la porte de la cave, en sortit une autre bouteille d'Ancient Age, dévissa la capsule et se servit largement.
« Pour un gosse intelligent, tu es tellement Dummkopf. Est-ce que les grands-pères ressemblent jamais à leurs petits-fils, hein? J'ai les cheveux blancs. Tu as des cheveux blancs ?»
En revenant vers la table, il tendit la main avec une vivacité surprenante, attrapa une bonne poignée des cheveux blonds de Todd et tira vigoureusement.
« Ça suffit !»
lança Todd, avec tout de même un léger sourire.
« De plus, »
dit Dusander en reprenant son fauteuil à bascule,
« tu as les cheveux blonds et les yeux bleus. Mes yeux sont bleus et mes cheveux, avant de blanchir, étaient blonds. Tu peux me raconter toute l'histoire de ta famille, tes oncles et tes tantes. Les gens avec qui travaille ton père, les petits dadas de ta mère, je m'en souviendrai. J'apprendrai et je m'en souviendrai. Deux jours plus tard, je l'aurai oublié. Ces temps-ci, ma mémoire n'est plus qu'une passoire pleine de flotte. Mais je m'en souviendrai le temps qu'il faudra. »
Il eut un sourire sans gaieté.
« À mon époque, j'ai été plus rapide que Wiesenthal et j'ai roulé Himmler lui-même dans la farine. Si je suis incapable de berner un instituteur américain, je me draperai dans mon linceul et j'irai m'allonger dans ma tombe. »
Peut-être,
dit lentement Todd, et Dusander put voir qu'il avait déjà accepté. Ses yeux brillaient de soulagement.
Non, sûrement,
s'exclama le vieil homme. Il partit d'un rire caquetant, hoquetant, ponctué par les grincements du fauteuil à bascule. Todd le regarda, étonné et un peu effrayé. Mais bientôt, il se mit à l'imiter. Tous deux se mirent à rire interminablement sans bouger de la cuisine. Dusander près de la fenêtre ouverte par où entrait le vent chaud de la Californie, Todd se balançant sur deux pieds de sa chaise de sorte que le dossier s'appuyait contre la porte du four dont les mailles blancs étaient entrecroisées de rayures noires, charbonneuses, faites par les allumettes en bois que Dusander frottait pour les allumer. Ed, caoutchouc French, son surnom, Todd l'avait expliqué à Dusander, venait des caoutchoucs qu'il portait par-dessus ses baskets chaque fois qu'il pleuvait, était petit et mince, et tenait à porter des kids à l'école. Grâce à cette note de simplicité, il croyait s'attirer l'amitié des quelques 106 enfants de 12 à 14 ans qu'il avait la charge de conseiller. Il possédait 5 paires de kids dont les couleurs allaient du bleu fond l'azur au super jaune Zonkers, ignorant totalement que derrière son dos, on l'appelait non seulement Ed Caoutchouc, mais Pete le Sournois et l'homme aux kids, comme dans le retour de l'homme aux kids. À l'université, on l'avait appelé le Crispé, et il aurait été on ne peut plus humilié d'apprendre que cette indignité avait transpiré. Il mettait rarement une cravate, préférant les pulls à col roulé qu'il portait depuis le milieu des années 60, quand David McCallum les avait mis à la mode grâce à Uncle, le feuilleton d'espionnage. À la fac, déjà, les autres étudiants le voyaient traverser la cour et disaient voilà le crispé dans son pullover d'espion. Il était diplômé en psychologie pédagogique et pensait en son fort intérieur être le meilleur orienteur scolaire qu'il ait jamais rencontré. Avec les gosses, il avait un rapport vrai.
Il pouvait aller au fond des choses, bavasser avec eux ou garder un silence sympathique
quand il fallait qu'ils gueulent un coup pour faire sortir la merde. Il pouvait se mettre dans leur godasse, parce qu'il comprenait combien c'est chiant d'avoir 13 ans quand quelqu'un vous fait un numéro dans la tête et qu'on ne peut pas rassembler ses abatis. En fait, il avait salement du mal à se rappeler ce que c'était que d'avoir 13 ans. Il supposait que c'était le dernier prix à payer quand on atteignait la cinquantaine, en plus d'avoir dû traverser ce meilleur des mondes des années 60 en étant surnommé le crispé. Quand le grand-père de Todd Bowden entra dans son bureau et referma sans mollesse la porte en verre dépoli, Ed Caoutchouc se leva en signe de respect, mais se garda de faire le tour du bureau pour l'accueillir, se rappelant ses chaussures. Parfois, les vieux de la vieille ne comprenaient pas que les baskets pouvaient mettre en confiance les gosses qui avaient un blocage avec les profs. Autrement dit, certains des anciens ne pouvaient pas se mettre dans les godasses d'un conseiller pédagogique en KEDS. « Voilà un mec qui présente bien », se dit Ed Caoutchouc. Des cheveux blancs soigneusement coiffés en arrière. Un costume trois pièces immaculé. Une cravate gris tourterelle avec un nœud impeccable. Dans sa main gauche, il tenait un parapluie noir, fermé, il pleuvassait depuis le week-end, d'une façon presque militaire. Quelques années plus tôt,
Ed Caoutchouc et sa femme avaient été des fans de Dorothy Sayers, lisant de cette respectable personne toutes les œuvres sur lesquelles ils avaient pu mettre la main.
Il lui vint à l'esprit que le vieil homme était une parfaite incarnation de son héros, Lord Peter Wimsey. C'était Wimsey à 75 ans, bien après que Bunter et Harriet Vane eurent reçu leur récompense dans l'au-delà. Il prit note, mentalement, d'en parler à Sondra quand il rentrerait à la maison.
« Monsieur Bowden, »
dit-il respectueusement en tendant la main.
« C'est un plaisir, »
dit Bowden en la serrant. Ed Caoutchouc prit soin de ne pas employer la pression autoritaire et sans concession qu'il réservait au père. D'après sa poignée de main précautionneuse, le vieux avait sûrement de l'arthrite.
« C'est un plaisir, monsieur French, »
répéta Bowden, qui s'assit en relevant soigneusement ses jambes de pantalon. Il planta le parapluie entre ses jambes et s'appuya sur la poignée, prenant l'air d'un vieux vautour plein de courtoisie qui serait venu se percher dans le bureau du conseiller. Il avait un soupçon d'accent étranger, pensa Ed Caoutchouc, mais sans les intonations précises et pincées des Anglais de la haute, comme Wimsey, avec des inflexions plus larges, plus européennes. De toute façon, la ressemblance avec Todd était frappante, surtout le nez et les yeux.
« Je suis content que vous ayez pu venir, » dit Ed Caoutchouc en reprenant son siège, « bien que dans ces cas-là, le père ou la mère de l'élève... »
C'était sa tactique d'ouverture, bien sûr. Bientôt 10 ans d'orientation pédagogique lui avaient appris que lorsqu'une tante ou un oncle ou un grand-père demandait une entrevue, c'était habituellement parce qu'il y avait des ennuis à la maison. Le genre d'ennui qui s'avérait invariablement être le fond du problème. Ed Caoutchouc en fut plutôt soulagé. Des ennuis domestiques, c'était grave, mais pour un garçon aussi intelligent que Todd, il aurait été bien pire d'être salement accro à l'héros.
« Oui, bien sûr, »
dit Bowden, réussissant à paraître à la fois triste et en colère.
Mon fils et sa femme m'ont demandé si je pouvais venir discuter de cette triste affaire avec vous, monsieur French. Todd est un bon garçon, croyez-moi. Ses mauvaises notes ne sont qu'un problème passager.
Eh bien, c'est ce que nous espérons tous, n'est-ce pas, monsieur Bowden? Fumez, si vous voulez. C'est en principe interdit sur le territoire de l'école, mais je ne vous dénoncerai pas.
Merci.
Monsieur Bowden sortit de sa poche intérieure un paquet de Camel à moitié écrasé, planta entre ses lèvres une des dernières cigarettes en zigzag, trouva une allumette en bois qu'il frotta sur le talon de son soulier verni et l'alluma. Il toussa comme un vieillard à la première bouffée, éteignit l'allumette en la secouant et posa le morceau noirci dans le cendrier qu'Ed Caoutchouc lui avait offert. Le conseiller observa ce rituel, apparemment aussi cérémonieux que les souliers eux-mêmes, avec une fascination sans mélange.